Et donc, il va nous parler d'un sujet qui paraît, qui moi m'a paru en tout cas énigmatique au début. Comment ? Je crois que tu as lancé.
Oui, c'est bon. Merci,
hein. Et donc, cette idée de jeune, du jeune, on va voir, du Tibourg, de la communauté. Et voilà, je sais qu'il a fait énormément de recherches. Et je te remercie beaucoup, David, d'avoir accepté d'animer cette séance. Et voilà, à toi la parole.
Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci Alexandre. Merci de m'avoir proposé de participer. Merci à Rabenstein de me tolérer dans ces murs. Cette étude que je vais essayer de développer devant vous, elle est née d'une étude régulière avec un groupe d'amis lorsque nous étudions le traité Taanit intitulé Les Jeunes. Et au fil du traité, moi j'aime bien étudier les traités de A à Z. Je suis tombé sur ce passage, sur ce qu'on appelle une sugya, et qui m'a énormément frappé, qui m'a un peu torturé. Lorsque je suis arrivé à ce séminaire basé sur le livre de Danny Trobe, il y a un flash qui m'est apparu en me disant, non, chien, c'est de ça que ça parle. C'est de ça que ça parle. Et donc, je vais essayer un petit peu de développer les différents aspects de ce que j'ai pu voir là-dedans. On parlait tout à l'heure de séminaire. L'idée, c'est de dire que c'est une réflexion in progress, comme on dit, quoi. Elle n'est pas forcément aboutie. Je propose une analyse, puis elle n'est pas forcément pour autant terminée. L'idée est la suivante. Dans le traité Taanit, on a une partie considérable qui est consacrée au sujet précisément des calamités que peut rencontrer le peuple juif selon les endroits où il se trouve. Pas forcément dans sa totalité, ça peut être de manière locale. Et nous sommes confrontés à des calamités à certaines occasions. Ces calamités peuvent être de nature différente, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Mais celle à laquelle on va plutôt s'intéresser, c'est celle sur les calamités climatiques. J'ai plus rien, c'est d'actualité, même si c'était pas forcément ma volonté, mais c'est comme ça. C'est vraiment un sujet extrêmement qui préoccupe beaucoup les sages et qui essaye de développer une, qui essaye pas d'ailleurs, qui développe une réflexion très très approfondie sur ce sujet-là. Lorsque, en particulier, une sécheresse survient, il y a tout un processus qui est mis en branle pour, pour solliciter la pitié divine et pour tenter d'obtenir la pluie. Seulement, il arrive que la sécheresse se prolonge et à cette occasion, on va lancer un mécanisme de jeûnes successifs, de prières publiques, prières de rue maintenant, je crois qu'il faudrait dire, des prières publiques, de toutes sortes de personnes vont être concernées par cela. Au début, ça peut être des personnes qui sont plutôt des individus, parfois des sages. Au fur et à mesure, on va convoquer plus de gens, on va convoquer l'assemblée du peuple juif. Et au fur et à mesure de l'intensification de la sécheresse, on va, je dirais, faire appel à un plus grand nombre de personnes et avec une gravité différente des jeunes qui vont avancer. Au début, on est plutôt sur des prières, puis au fur et à mesure, les jeunes vont prendre leur place et les jeunes vont revêtir des accents plus dramatiques. Alors, qu'est-ce que c'est que cet accent le plus dramatique ? C'est ce qu'on appelle Taanit Tzibour. On en vient à notre sujet. Taanit Tzibour, on peut le définir de la manière suivante. Pour les mots, c'est-à-dire que c'est un jeune collectif, un jeune de la communauté. Par quoi il se caractérise ? Lorsqu'on a un jeune dans la première partie de sa progression que j'ai pu décrire, on a des jeunes qui concernent des personnes. Ici, on va plutôt toucher à la communauté, comme le nom l'indique, de manière beaucoup plus collective. Comment ça s'exprime ? Dans le Taanit Tzibour, contrairement aux autres jeûnes, on a un jeûne qui commence la veille au soir. Tous les autres jeûnes commencent au matin. Celui-là va commencer la veille au soir, comme celui que nous connaissons comme Kippour et comme plus précisément Tisha B'Av, le jeûne du 9 Av qui commémore la destruction du temple. Et lorsque on va organiser ce jeûne collectif, ce jeûne de la communauté, il va être associé à des lois très précises qui vont avoir ici toute leur importance. C'est quoi ? Donc, premièrement, une spécificité. Lorsque on a les jeûnes qui précèdent le Ta'anit Tzibour, chaque jeûne doit être là aussi précédé d'une acceptation préalable du jeûne, ce qu'on appelle Kabbalah. Il faut prendre sur soi, la veille au soir, et dire « demain je jeûne ». Sans quoi, on va porter atteinte à la validité du jeûne d'une certaine manière. Dans le Ta'anit Tzibour, la notion de Kabbalah disparaît. Un point très intéressant sur lequel on reviendra un peu plus tard. Deuxièmement, c'est un jeûne où on ne travaille pas. On ne se chausse pas de chaussures en cuir, pour dire les choses rapidement. Et on n'a pas de relation intime. Voilà l'essentiel. Et c'est associé à des prières collectives, avec tout un cérémonial dont on parlera un peu plus tard. Là où ça bloque, et c'est là que j'en suis venu à mon sujet, c'est quand on attaque la 12e page du traité Ta'anit, il y a une sentence assez étonnante qui est « En Ta'anit Tzibour Bebabel ». Il n'y a pas de jeûne collectif en Babylonie. Pourquoi ? C'est quoi l'histoire ? Qu'est-ce qui se passe ? Et c'est, en fait, le cœur du sujet, c'est pourquoi ? Pourquoi et qu'est-ce qui va faire qu'on va créer deux espaces, parce que ce sont deux espaces, on va le voir, on va dire Eretz Israël d'un certain côté, puis de l'autre côté la Babylonie, mais est-ce la Babylonie en tant que telle ? Ça va être une partie du sujet. Là-dessus, on a les tosafistes. Les tosafistes ont une explication que je vais qualifier ici, et que c'est absolument en aucun cas péjoratif, mais de contingente. Contingente par rapport au sujet, pas par rapport à leur opinion. C'est de dire la chose suivante. C'est pourquoi En Ta'anit Tzibour Bebabel, pourquoi n'y a-t-il pas de jeûne collectif en Babylonie ? C'est parce que c'est un pays qui se caractérise par une pluviosité abondante. Donc, pas de problème. Comme on n'a jamais ce problème, on n'a pas besoin de faire un Ta'anit Tzibour. Donc en fait, il faut lire la Gemara, non pas comme une sorte de loi, mais un constat. On n'en arrive jamais à un Ta'anit si grave à Babel, parce qu'on n'a pas de problème de pluie. La conséquence de ce que dit Tosfot, c'est que si on a une autre contrée, qui est, on est en Afrique, je ne sais où, et que là, on a des problèmes de privation de pluie, on pourra avoir un Ta'anit Tzibour, puisque contrairement à la Babylonie, on en a bien besoin. Ça, c'est l'idée que développe Tosfot. Un autre point qui est intéressant, c'est que si on peut déduire de l'avis des tosafistes que si tout le point axial, je dirais, c'est la pluviosité, alors si d'autres calamités venaient à arriver, peut-être qu'on pourrait convoquer un Ta'anit Tzibour, qui évidemment n'épargne pas forcément Babel. Donc cette règle n'est encore une fois pas à observer de manière si tranchante que cela, et que c'est juste un constat, quoi. Un constat, à Babel, il n'y a pas matière à Ta'anit Tzibour. Ça s'arrête là. Ça, c'est la première opinion que j'appelle contingente, et vous verrez un peu plus tard pourquoi. D'un autre côté, on a le fameux Ra'avad, Rabbi Avraham ben David de Poskier, et qui va nous dire que, pour des raisons assez proches finalement, nous dit que le Ta'anit Tzibour, supposant la privation de chaussures solides, alors que Babel serait une contrée froide, c'est très inconfortable. On ne peut pas demander à une communauté de se mettre dans des situations aussi inconfortables. Et par égard pour eux, il n'y a pas de Ta'anit Tzibour à Babel parce que c'est trop compliqué de porter ce genre de chaussures à Babel. Autre possibilité, c'est de dire que En fait, c'est ça. Là, c'est déjà un peu plus conséquent, c'est que ils étaient très pauvres. Babel était une région où les Juifs étaient pauvres. Leur demander de rajouter à leur pauvreté des jeunes, c'est ajouter du malheur au malheur. Et ça, on le souhaite pas. Donc, en conséquence, Entanit Sibour le Babel. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent pas le supporter. Trop compliqué. Et tout ça, en fait, pourquoi j'ai appelé ça contingent ? Parce que, encore une fois, si on a une contrée qui, elle, ne souffre pas d'une telle pauvreté, ben on pourra décréter un Tanit Sibour. Donc ce que je veux dire, c'est que ici, la sentence « En Tanit Sibour be Babel » n'est pas essentielle. Babel n'est qu'un exemple, parmi tant d'autres, d'une situation qui peut se retrouver à droite ou à gauche. Mais ça, c'est l'opinion de Tosfot, du Ravad, c'est comme ça qu'il voit les choses. Donc, on peut tout à fait échapper à cette règle, elle n'est pas une sorte de elle n'a pas de caractère incontournable. Là où on rentre dans le fond du sujet, à mon sens, en tout cas sur l'approche que j'en ai, c'est quand on aborde l'opinion de Nachmanides. Le Ramban, je vais vous le citer. Je le cite directement en français par égard pour vos oreilles avec mon accent séfarade. Il dit la chose suivante. Bon, c'est ma traduction, donc ça peut être pire que l'accent, mais c'est... Il dit, mais la juste raison, c'est qu'il est enseigné dans la Mishnah que c'est le tribunal, c'est-à-dire le Beddin, qui décrète ce jeûne sur la communauté. Or, il n'y a pas de Beddin en dehors de la terre d'Israël, car ce sont des juges simples, et il n'y a pas de force obligatoire suffisante dans leur décret pour mettre sur un pied d'égalité les jeûnes qu'ils décrètent et ceux de la Torah, que sont Yom Kippour et le 9 Av. Petite note intéressante qu'il appelle le 9 Av, Mina Torah. Ce dernier ayant été décrété par les prophètes, mais il lui donne une portée très, très, très élevée, mais je ne vais pas m'arrêter là-dessus maintenant. Donc, si on explique Nachmanides, il nous dit la chose suivante. Lorsque la Mishnah décrit la mise en branle du Tanit Sibour, elle dit « Bet Din Gozrin ». C'est le Bet Din, le tribunal, l'autorité, on va dire clairement l'autorité judiciaire, qui doit décréter. Donc, le Ramban se prend les choses, si je puis dire, au mot, de manière tout à fait sérieuse, et il dit, si c'est Bet Din, c'est qu'il faut avoir l'autorité du Bet Din. Donc, ça n'est que l'autorité du Bet Din qui peut provoquer ce Tanit Sibour. Si c'est ça, il dit, on sait très bien, nous, que les juges, disons, tels qu'ils sont dits, prévus par la Torah, ce sont des juges qui ont reçu l'ordination en Eretz Israël, et que, on va dire, pour bien saisir ce que dit Ramban, il dit ça n'existe qu'en Eretz Israël, ils n'ont ce pouvoir qu'en Eretz Israël. Donc, d'après Ramban, l'idée, ça serait de dire que En Tanit Sibour be Babel, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de jeune collectif à Babel, c'est parce que on ne peut pas, nul n'a le pouvoir en dehors d'Eretz Israël de décréter un tel jeûne. Donc, ici, c'est un problème. À lire le Ramban de manière la manière la plus immédiate, c'est il le dit. Il dit, ce sont des juges simples, ce qu'on appelle idiotes. Il n'y a pas de force obligatoire suffisante dans leur décret pour mettre sur un pied d'égalité les jeunes, etc. Donc en fait, il est en train de nous dire que Israël est le seul endroit où il y a une autorité politique. Et c'est là que je voulais en venir. Une autorité politique susceptible de convoquer un Tanit Sibour. C'est le seul endroit. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est un problème d'autorité. D'autorité, pas au sens, matériel du terme, mais ici, il y a une forme de légitimité qui est celle du Beit Din et qui va conférer à leur décret une portée suffisante pour décréter le Tanit Sibour. Mais ces autorités n'ont pas cours, n'existent pas en dehors d'Eretz Israël. Donc, à Babel, ça ne peut pas arriver. Et là, du coup, Babel bascule, pas seulement dans le côté Babel anecdotique, comme j'ai évoqué plus haut, mais ça devient, en fait, c'est Eretz Israël contre tout ce qui est la diaspora. Et là, c'est là que ça devient, à mon avis, plus pointu ou plus criant par rapport à notre problématique de base. C'est que, maintenant... C'est pas tant, ici, chez Ramban, pour l'instant, une problématique territoriale, vraiment. c'est plutôt une problématique de légitimité judiciaire qui n'existe d'une certaine manière qu'en Eretz Israël. Alors, d'où est-ce que le Rambam a pondu un truc pareil ? Parce qu'il ne s'agit pas de... Évidemment, comme le font toujours les Rishonim, ils ont une justification très précise de ce qu'ils disent. Et Rambam se base sur un texte du Talmud Yerushalmi, du Talmud de Jérusalem. Et alors, je préviens d'avance, quiconque a l'habitude, un temps soit peu, de fréquenter le Yerushalmi, c'est parfois se frapper la tête contre les murs. Pour une raison simple, c'est qu'en fait... Enfin, je parle sous votre contrôle, évidemment, mais c'est que le Talmud Bavli a été beaucoup plus fréquenté par les commentateurs, beaucoup plus travaillé, beaucoup plus passé au tamis. Donc d'abord, son texte a été vraiment... le texte du Talmud Bavli a été rendu de la manière la plus, on va dire, lisible et cohérente possible, beaucoup moins dans le Yerushalmi. Il n'y a pas de Rashi dans le Yerushalmi. D'autres commentateurs ont tenté de faire des équivalents, mais ce n'est pas la même chose. Et il y a beaucoup de problèmes de ce qu'on appelle de girsaot, c'est-à-dire de versions différentes du texte. Et ça, ici, ça ne manque pas. Que dit le Yerushalmi ? Il part sur un verset du livre de Yoël. Le livre de Yoël, là-bas, le prophète proclame un jeûne, et il nous dit la chose suivante. Que le marié sorte de sa chambre, la mariée de son dé. A priori, ça veut juste dire, là-bas, que le jeûne concernera, par exception d'une certaine manière, et un marié, c'est-à-dire, vous imaginez, le type qui est en pleine Shiva Brachot, ou en pleine Sousa Roupa, on lui dit, tu vas jeûner, au lieu d'aller au dîner de la Roupa, tu vas aller jeûner. C'est ça, c'est ce que dit le prophète Yoël. Et même la mariée, dans sa belle robe, devra sortir et jeûner. Et... À la manière habituelle des sages, le Yerushalmi va nous proposer une lecture d'un degré différent et va nous dire qui sont ces mariés, hommes et femmes. Et il va nous dire que le marié sort de sa chambre, c'est le nasi. Que la mariée sort de son dé, il s'agit du havbeddin. C'est-à-dire que les deux autorités suprêmes à la tête des instances judiciaire du peuple juif. Je dis judiciaire pour faire, encore une fois, pour faire, c'est un peu un raccourci. Vous voyez à peu près de quoi je parle. Donc, si je reprends, c'est que on nous dit, je vais poursuivre le Yerushalmi, on comprendra mieux. La suite du Yerushalmi nous dit, au nom de Rabbi Chelbo, on a Rabbi Chelbo qui est allé voir Rabbi Yudan Nessia. Rabbi Yudan Nessia, a priori, c'est le petit-fils de Rabbi Yudan Anassi, d'après ce que j'ai vu, j'en suis quasiment sûr. Et il s'adresse à lui comme ça, puisqu'il était par définition le Nassi, donc le chef du tribunal, le chef du Sanhedrin en l'occurrence. Il dit « Sors avec nous ». Donc on est dans un contexte de Ta'anit. « Sors avec nous » veut dire ici « Participe aux jeunes sur la place publique ». Rejoins-nous et ta souffrance passera. Bon. Sur ce, Rabbi aussi dit, c'est ce que l'on dit, ces jeûnes que nous faisons ne sont pas des jeûnes. Pourquoi ? Parce que le Nassi n'est pas avec nous. Alors là, ce texte, si vous lisez comme ça, c'est incompréhensible. Incompréhensible. Bon, il faut essayer de saisir quel est le fond du problème, parce que balancer comme ça, c'est pas extrêmement clair. En tout cas, on a ici des éléments à l'appui de Nachmani. C'est-à-dire que Nachmani vient nous dire que ce que ce texte exprime, c'est que pour que un Ta'anit Tzibour puisse être un Ta'anit, il faut qu'il ait à sa tête, il faut qu'il soit provoqué par un personnage qui s'appelle le Nassi. On en vient à ce qui j'ai dit torturer tout à l'heure, et j'exagérais pas, c'est... Alors, je vais le dire dans mes préoccupations, je pense que pour d'autres, ça sera pas la même chose. Je me suis dit, mais on est dans un contexte de jeûne. A priori, le jeûne, même si c'est dans un cadre collectif, c'est quelque chose qui a une démarche qui a une part de convocation de la subjectivité, quoi. C'est, ça parle de notre corps, ça parle de notre vécu. Si on parle du Ta'anit Tzibour, on parle ici de la consommation de nourriture, mais aussi de la vie intime. Ça aussi, on dit stop. Et qui est-ce qui dit ça? C'est le nasi. Stop. Vous arrêtez de manger, vous arrêtez de dormir en couple. Enfin, je me suis dit, mais qu'est-ce que le politique vient faire ici? Alors, moi, j'ai appelé ça le politique, peut-être d'autres ne le verront pas comme ça. Il me semble que c'est le terme est juste. Qu'est-ce que le politique vient faire à l'intérieur de la vie intime d'un homme ou d'une femme? Alors, évidemment que la vie juive, elle est faite de ça. Donc, on pourrait très bien évacuer le problème en disant, c'est tout le temps, c'est pas original. Mais il m'a semblé qu'ici, on était vraiment au cœur du vécu humain le plus intime. Et tout d'un coup, le nasi vient et dit, c'est moi qui vais dire à quel moment tout ça doit avoir cours ou pas. C'est ça qui a provoqué ma réflexion sur ce sujet. Pourquoi lui? Qu'est-ce qui lui donne ce pouvoir? Alors, j'ai malheureusement pas de background philosophique large, mais honnêtement, on va voir ici que les différentes possibilités de lire ce texte, vont donner une sorte de panel de différentes possibilités de définir le pouvoir politique, au moins dans ce contexte. Je ne suis pas un très grand lecteur de Foucault, mais c'est sûr que la réflexion sur le rapport entre le corps et le pouvoir politique, c'est une question qu'il a beaucoup travaillée. Et j'ai senti que ça a affleuré de manière ou d'autre, mais d'autres sauront le dire bien mieux que moi. Mais on verra d'autres. Je ne vais pas développer ça parce que je n'ai pas de connaissances suffisamment sérieuses en la matière. Mais je pense que vous pourrez bien mieux dire à quoi ça correspond, comment ça s'exprime ici. Donc il y a plusieurs manières de dire, si on reprend le thème, si j'espère que tout le monde suit, j'espère qu'il n'y a pas de difficultés particulières. C'est bon ?
On protestera.
Oui, le Hav Beit Din. Le Hav Beit Din est secondaire. Il est complètement évacué par. Et c'est très intéressant. C'est très intéressant. Je me suis posé la question. Il est secondaire dans la structure du Sanhédrin. Rambam le définit comme ça.
Ça fait un peu sexiste, alors, pour le coup, puisque c'est la femme.
Pourquoi ?
Dans l'image. Le Hav Beit Din, c'est la mariée.
Ah, bien, c'est bien, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est très marrant. Pourquoi est-ce que Rambam évacue ça complètement ? Peut-être comme si, oui.
Parce que dans l'image où c'est pris, c'est le marié et la mariée.
Tout à fait. Est-ce que ça serait à dire de manière très simple qu'il est le plan B, quoi. Que le nasi étant le chef suprême, on n'a recours au Hav Beit Din que dans un second temps, mais c'est pas super satisfaisant.
Bon, je ne veux pas t'interrompre, non, on reviendra.
Okay. Avec plaisir.
Si le texte l'évacue.
Ah, plaisir. Ok. Donc, en gros, l'idée, c'est d'essayer de développer quelles sont les différentes lectures possibles de ce texte, de cette situation un petit peu particulière. Donc, la première possibilité, c'est de dire que le nasi, c'est une autorité politique. Une autorité politique, de manière très, très classique, on a ici une figure qui fait un acte d'autorité, c'est-à-dire qu'il proclame le Ta'anit Tzibour, et voilà. Donc, on ne peut donner de validité à cette procédure que si elle est provoquée par la figure politique compétente en la matière. Et on serait sur une logique d'autorité. Et en fait, si on le regarde dans les mots du Ramban, c'est un peu comme ça qu'il a l'air de le présenter. Il dit « car ils sont ceux, le Hav Beit Din et le nasi, tiens, et ça m'avait échappé, il cite les deux, qui décrètent le jeûne sur la communauté comme une communauté qui reçoit leurs opinions et leurs décrets. » Donc, a priori, ça a l'air d'être un jeu entre un chef politique et un corps politique qui reçoit les décisions. C'est classique, quoi. A priori, rien de bien particulier. Ce qui peut paraître être une évidence ne l'est pas tant que ça. Parce qu'en fait, c'est ma femme qui m'a soucié que je regarde cette question. C'est que c'est pas sûr que tout ça fonctionne sur un mode coercitif. Donc, une lecture pourrait être de dire qu'on est dans le champ de l'autorité politique classique, donc avec des données coercitives. Ici, il y a des preuves très nettes que c'est pas du tout l'idée. Ce que je propose de dire, c'est que En fait, il faudrait lire le Ramban comme ça, qui reçoit leurs opinions et leurs décrets, non pas parce qu'ils sont soumis par définition, mais parce qu'ils s'y soumettent. Donc il y aurait une sorte d'idée que, ici, le nasi provoque ou donne la possibilité à ceux qui l'écoutent de faire preuve d'une certaine forme d'humilité. L'humilité est un mot qui reviendra beaucoup, mais ils se soumettent volontairement, pas d'une manière forcée. Ça, c'est la première possibilité de dire Ramban, qui a priori rentre dans les mots de manière assez aisée. Il y a une deuxième lecture, c'est si on reprend les mots du Yerushalmi, c'est qu'il nous dit comment est-ce qu'on fait pour faire un Tanit Tzibour. Les mots exacts sont les suivants. Ces jeunes que nous faisons ne sont pas des jeunes, c'est-à-dire des jeunes au sens Tanit Tzibour. Pourquoi ? Parce que le Nasi n'est pas avec nous. C'est-à-dire quoi, pas avec nous ? Bon, a priori, là encore, on peut avoir une lecture un peu artificielle, un peu formelle, c'est-à-dire, il manque une case, il manque un élément, c'est un quorum. On essaye de former un quorum. Dans ce quorum, il faut une certaine structure et qu'il va, lui, donner la forme à cette assemblée. Là encore, je ne suis pas sûr que ce soit le problème. Et c'est possible que soit aussi le maître mot soit ici aussi une forme d'humilité. C'est dire que cette fois-ci, l'humilité, elle est du côté du nasi. Descends avec nous, viens avec nous, dit Rabbi Chelbo, descends parmi nous. C'est une manière de lui dire, réintègre les rangs du peuple. Toi, tu es à l'écart. Toi, tu vis comme quelqu'un qui surplombe le peuple. Descends de ton piédestal, rejoins-nous. Quand est-ce qu'il est possible de mener un Ta'anit Tzibour ? D'une certaine manière, c'est quand le Nasi descend de son statut et rejoint le peuple. C'est pour ça que l'expression, elle est frappante finalement dans Yerushalmi. Il dit, si tu descends avec nous, cela fera distraction à ton chagrin. Et on a vraiment l'impression de voir l'empereur romain qui descend parmi le peuple pour regarder, tiens, ça a l'air sympa ce qui se passe. Ça paraît presque laid, c'est choquant. C'est pas évident qu'ici il faille comprendre comme ça. Il faudrait comprendre que ça fera distraction, c'est-à-dire que ta présence, ta capacité à intégrer nos rangs et à venir auprès de nous, c'est ça qui va faire que le chagrin va partir. C'est-à-dire que c'est ça qui va faire que la calamité va se détourner de nous. Si tu prends la peine de descendre parmi nous, voilà comment on. Mais là encore, voilà comment réussira notre assemblée. Et ça suppose chez lui un geste très fort qui est de descendre de son piédestal. Ça serait une lecture possible de Ramban. Dans les commentateurs, il y a encore une autre possibilité. Elle est très dure à avaler, mais elle est très intéressante. C'est celle qui est donnée par les Géonim. Les Géonim nous disent, si vous regardez dans les responsables des Géonim, ils nous disent que ils avaient l'habitude de faire des Tanit Tzibour même à Babel. Alors, a priori, ça va complètement contre la Gemara, c'est là que ça devient compliqué, mais ils expliquent pourquoi, parce qu'ils disent que en fait, le Nasi, c'est le détenteur du savoir. C'est le maître qui surplombe tout le monde, celui qui est au-dessus de tout le monde. Nous disent les Géonim, en tout cas comme j'ai compris, hein. Les Géonim disent, à partir du moment où on a un personnage de cette stature parmi nous, on va pouvoir convoquer un Tanit Tzibour. Alors, c'est difficile de faire rentrer ça dans les mots de la Gemara, mais l'idée, elle est très forte. Elle est en train de dire que qu'est-ce qui permet de convoquer le Tanit Tzibour, c'est-à-dire de mettre en branle la dimension de Tzibour, la dimension de communauté, de collectif, c'est le savoir. Celui qui a la chorma, celui qui est détenteur de cette chorma. Encore une fois, je ne suis pas suffisamment compétent en la matière, mais ça fait quand même un peu penser à Platon. Et il y a cette question de savoir comment est-ce que va se former le collectif, c'est la reconnaissance du savoir. Ou en tout cas, la légitimité du savoir. Ça, c'est le point chez les Guéonimes. Mais pour ça, il faut ce qu'ils appellent un maître éminent, quelqu'un qui va surplomber. Et c'est quelque chose qui est présent aussi dans les commentaires du Meiri. Le Meiri va dire quelque chose de similaire. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le Meiri nous dit, c'est pas seulement le Nassi, mais c'est un grand maître ou un dirigeant. Qu'est-ce qu'il raconte ? On a dit c'est le Nassi. Donc dans la lecture du Meiri, exit le poste politique en tant que tel. On s'en fiche en fait. On n'a jamais cherché à avoir une espèce de responsable désigné, secrétaire ou ministre d'eux. Non, c'est parce qu'il est détenteur du savoir qu'il peut le faire. On se fiche d'où il est. Conséquence, si on a un personnage qui lui surplombe sans avoir pour autant ce poste, eh ben, il pourra déclencher un Taanit Tzibour. Or, toute la logique du Taanit Tzibour, c'est vraiment de transformer un Taanit en Taanit Tzibour, c'est-à-dire de passer d'une dimension a priori semi-individuel, à une dimension profondément collective. Et ce point de bascule entre les deux, il se fait par qui ? Par l'érudit, par le grand maître. Donc, on quitte vraiment la logique d'institutionnel, si vous voulez. La logique institutionnelle qui serait de dire que le point de repère serait une sorte de poste... Pour aller migrer vraiment sur la notion de chorma, sur la notion de sagesse. Et c'est ça qui permettrait au peuple juif de se mobiliser autour du Taanit Tzibour. Bon, la vraie difficulté, je ne le cache pas, c'est... les mots de la Gemara sont un peu plus clairs. « En Taanit Tzibour Bebavel ». Je ne vois pas comment on va faire rentrer ça dans la Gemara, sauf à dire qu'à Babel, il n'y avait pas d'équivalent, de maître équivalent à ceux d'Eretz Israël, ça va être dur. C'est une lecture qui n'est pas évidente à faire entrer dans les mots. Néanmoins, les Guéonimes le disent, le Meiri le dit, donc au moins on est obligé de faire avec. Maintenant, on va faire un gros saut dans le temps. Maintenant, on est plutôt au XXe siècle. Il y a un célèbre auteur qui s'appelle Rabbi Yosef Rosin, le Gaon de Rogatchov. Rogatchover pour les yiddishisants. Rogatchover, il a l'auteur du Tzafnat Panéar, il a une théorie très très intéressante. Et c'est des choses qu'on trouve déjà dans le Ran, dans certains rishonim. C'est de dire comme ça. En fait, la notion même de collectivité, la notion même d'assemblée, ça n'existe qu'en Eretz Israël, par définition. Quelle est sa preuve ? Il y a plusieurs textes dans la Gemara, mais un texte notamment dans le traité Brachot, 58a, dit « En uchlusia bebavel ». Le mot ecclésia, hein, on le reconnaît. « En uchlusia bebavel ». Il n'y a pas d'assemblée, de collectivité à Babel. C'est une notion qu'on trouve aussi dans Orayot. Donc le Gaon de Rogatchov, lui, il prend ça de manière directe. Il nous dit, ben, ok, donc il est explicité dans la Gemara de manière très nette que la notion même de collectivité, de tzibour, n'a pas cours, ne peut pas prendre corps ailleurs qu'en Eretz Israël. Donc, la conséquence, c'est quoi ? C'est que tu ne pourras jamais arriver à un Taanit Tzibour, parce que tu n'as pas de tzibour. Tout tzibour conformera, et ça c'est d'une... Pour moi, c'est pour ça abyssal. Il faut un peu mâcher ce sujet. Il est en train de nous dire que tout ce qu'on a beau faire en dehors d'Eretz Israël pour constituer une dimension collective, c'est peine perdue. Ou en tout cas, ça ne s'appellera jamais quelque chose qui est de l'ordre du Tzibour. Alors évidemment, c'est pas facile à comprendre, parce que dit comme ça, ça a l'air de l'algèbre. Et on ne comprend pas. Et puis, il faut dire que c'est un auteur qui est non seulement extrêmement difficile, mais en plus, il marche par... par initial, par acheter vote, c'est extrêmement concis, c'est pas évident. J'ai eu recours pour un peu essayer de comprendre de quoi il parlait au Maharal de Prague. Le Maharal de Prague le dit à plusieurs endroits dans son œuvre. Il explique de la manière suivante que pourquoi Eretz Israël, c'est le lieu où peut se former une dimension de tzibour dans le peuple juif. Il a une idée assez incroyable, c'est de dire que c'est lié à la dimension de la responsabilité collective. Il y a des preuves que lorsqu'on est rentré en Eretz Israël, lorsque le peuple juif rentre en Eretz Israël, surgit à ce moment-là la notion de harvout, de co-responsabilité. Et il nous dit que entrer en Eretz Israël, c'est d'office accepter la responsabilité des autres. Donc, le corollaire même du fait d'entrer en Eretz Israël et de prendre possession de cette terre, c'est soudain de former un ensemble et de devenir responsable des autres. Donc, il est en train de nous dire que qu'est-ce qui est la racine même ? Est-ce qu'on va dire racine ? Est-ce qu'on va dire corollaire ? On peut réfléchir. Mais qu'est-ce qui est inséparable de la notion même de tzibour, c'est la responsabilité. Si je suis responsable des autres, là, il y a, oui, une aussi dimension collective. Or, il explique, il y a des preuves à cela, cette notion de responsabilité collective ne prend corps qu'à partir de l'entrée en Eretz Israël. Bon, donc là, décliner les différentes manières de lire ces textes. Et on a vu différents types de légitimité politique ou d'expression du politique. Qu'est-ce qui fonde cette possibilité de convoquer le Ta'anit Tzibour ? Donc on voit effectivement différents avis qui vont depuis les Rishonim les plus anciens jusqu'aux commentateurs plus tardifs, les Haronim du XXe siècle. Alors, j'ai essayer de voir comment ça, qu'est-ce que ça signifie pour nous, finalement, cette histoire. Qu'est-ce qu'on gagne à créer une collectivité, finalement ? Qu'est-ce qu'on gagne ? Là, on est dans un moment de détresse du peuple qui est confronté à la sécheresse. Évidemment, ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, vous m'auriez demandé ça il y a 25 ans, la sécheresse, ça ne me parlait pas des masses, quoi, parce que de toute façon, au marché, il y avait tout ce qu'il fallait. Et puis, on n'était pas concernés par ces choses-là. Aujourd'hui, ça paraît beaucoup plus criant, quoi. C'est quelque chose qu'on vit de manière beaucoup plus forte. Ils sont confrontés à ce désastre-là. Et ils vont faire corps, ils vont faire un ensemble, ils vont se lier les uns aux autres. Alors, qu'est-ce qu'on gagne à ça ? Proposition. Première chose, c'est de dire que ici, il y a un refus du bouc émissaire. Quand on forme un collectif, on refuse la logique du bouc émissaire. Je ne veux pas faire de l'actualité, parce que c'est souvent pas pertinent, mais c'est quand même extrêmement frappant de voir que dans le délire qu'il y a aujourd'hui autour du dérèglement climatique, il y a une obsession du bouc émissaire. C'est les riches. C'est les types du PSG. De temps en temps, c'est les juifs. Il n'y a rien à faire. On est obligé d'aller chercher des boucs émissaires. Et le Ta'anit Tzibour, il nous dit, stop. Je veux personne en dehors. N'allez pas désigner un bouc émissaire. Rassemblez-vous. Je veux pas de ça. Et c'est la seule manière de faire face à l'événement, de manière, d'une façon qui soit porteuse, c'est de rejeter la logique du bouc émissaire. Et ce qui va avec ça, c'est que, en fait, on ne peut pas fonder un tzibour sur la haine de l'autre, sur dire à l'autre tu es responsable du problème. On ne peut former une collectivité, et cette tzibour ne peut naître que si on accepte de dire on forme un. Dans les commentateurs, notamment dans le Maharal, il y a cette idée qui, moi, me touche énormément. C'est que en formant un groupe qui, contre son gré même, s'unit, mais en réalité, on est un reflet du 1. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on commence à prendre conscience du 1 suprême ? C'est quand nous, on accepte de ne pas former des groupes dissonants et de dire « lui, il n'est pas de notre groupe, lui, il n'est pas de nous ». Et ce reflet-là, il est le début d'une prise de conscience. Je l'ai vu assez clairement dans le Maharaj, je l'ai vu dans d'autres commentateurs. Il me semble que on peut faire appel à cette notion ici. Quand est-ce qu'on voit la première fois, sauf erreur, la formation d'un collectif dans la Torah? Il y a plusieurs manières de l'apprécier, mais je dirais que c'est la tour de Babel. Il y a une tradition au nom du Gaon de Vilna, je ne sais pas si elle s'applique ici, mais en tout cas l'idée elle est là, qu'il y a une importance particulière de la première occurrence d'un sujet ou d'un thème dans la Torah. Si on dit que, c'est une proposition, que Babel serait la première fois qu'il y a l'apparition d'une volonté de s'agréger en collectif, ben finalement, on retrouve des éléments communs avec ce qu'on a vu. C'est-à-dire qu'on a une catastrophe climatique. Ils sont confrontés à ça. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils forment un collectif pour faire face. Donc finalement, on retrouve un mécanisme qui peut-être a à voir peu ou prou avec notre sujet. Seulement, il ne s'agit pas de l'identifier, mais plutôt de le différencier. L'idée, c'est de dire que qu'est-ce qui sert de moteur à Babel pour former un ensemble, c'est la volonté de trouver des solutions. On veut absolument trouver des solutions. Dans les Midrashim, bon, moi ça m'a fait sourire, je veux le dire, les Midrashim m'ont fait sourire. Pourquoi? Parce que les Midrashim disent, ils prêtent, ils affirment sur les gens de l'époque de Babel, qui trouvaient des solutions qui ont l'air absolument ridicules. C'est-à-dire, on va faire des piliers pour soutenir le ciel pour qu'il ne s'écroule plus. On peut le prendre au sérieux, on peut donner une lecture sérieuse, mais si on prend deux pas, on dit c'est absolument absurde, quoi. C'est absurde. On va faire des piliers pour soutenir le ciel. Et si d'autres midrashim disent, ils avaient repéré une cyclicité, ils se sont dit, ça revient régulièrement, ces catastrophes naturelles. On va repérer cette cyclicité, donc on va le mettre ça, on va dire sous le microscope de la science, et on va trouver des solutions. Et en fait, ce qui m'a semblé frappant dans les midrashim, c'est cette idée qu'ils sont tout le temps à la recherche de solutions. Comment on va parer à une future catastrophe climatique? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais toujours, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place comme solution? Alors, on va appeler ça scientifique, pour ne plus me retrouver dans cette situation. Il y a un autre point commun avec notre sujet, c'est la dimension du politique. C'est quoi? C'est Nimrod. En fait, Nimrod, c'est un drôle de personnage. Rashi va nous dire, sur le verset qui dit « Gibor Tsaïd Livne Hachem », c'est un chasseur puissant devant Hachem, il y a un Rashi qui est délicieux. Il dit, c'est quoi un chasseur puissant? Il dit, il capture l'opinion des créatures et les induit en erreur afin qu'elles se révoltent contre Dieu. C'est-à-dire pour lui, Saïd, il le prend chasseur au sens de celui qui capture. Et qu'est-ce qu'il capture? Pas des bêtes de la forêt ou des animaux sauvages, mais il capture l'opinion collective, quoi. L'opinion. C'est sa capacité à mobiliser l'opinion. Donc c'est ça, en fait, on a vraiment le sentiment que Nimrod, c'est le politicien de toute sa splendeur, quoi. C'est le type qui fait des grands discours, c'est un orateur extraordinaire. Il mobilise. Et comment il mobilise? Il mobilise autour d'un projet technique. Et il dit, on va se réunir, on va faire un pilier pour le ciel. Voilà, je vous propose des grands travaux qui vont résoudre tous vos problèmes. Et vous ne serez plus jamais soumis à des aléas. Et ces grands travaux vont vous garantir. Je vous le dis, je suis votre chef et je peux vous mobiliser autour de ce projet. Donc tout son truc, c'est de dire, on va trouver des solutions. Il y a un développement vraiment extraordinaire dans le Shiurei Da'at du Rav Bloch de Tez. Il y a un développement vraiment magnifique sur ce sujet. Parce que d'une certaine manière, et je suis d'accord qu'on peut objecter à cela, à force de chercher des solutions techniques, en fait, ce qu'on cherche, c'est à évacuer Dieu de notre vie. à évacuer une dimension qu'il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas. On veut tout mettre au pas de la technique. Mais est-ce qu'une vie peut être résumée à ça? C'est la thèse de Nimrod. Oui, on peut. On peut, on va trouver des solutions techniques pour se garantir et ne plus laisser du tout la possibilité à Dieu de nous faire ça, jusqu'à ce que les Midrashim disent on va mettre une idole au sommet de la tour pour tuer Dieu. Bon, on parle de Spinoza. On va le tuer. Donc tuer Dieu, ça ne veut pas dire forcément tuer Dieu, ça veut dire qu'on va rompre entre... on va le laisser là-haut et on lui dit tu n'as plus rien à faire chez nous. On ne sera plus soumis à ce qu'on pourrait appeler l'arbitraire. On va devenir maître de notre destin. Ça suffit. On ne peut pas avoir quelque chose qui nous tombe dessus tous les trois matins parce qu'on a fait je ne sais pas quoi. C'est pas possible. Donc maintenant, on va étayer le ciel et c'en est fini. Il n'y a plus de décision divine qui peut nous coûter tout ça. C'est possible. En relisant le texte, je me suis dit que la sanction de la dispersion et du changement des langues, si tant est que ce soit ça le chat, c'est pas forcément tant une punition qu'une chance. C'est tout à fait possible qu'en fait, il y ait une sorte d'enfermement dans cette logique-là. C'est-à-dire que chez Nimrod enferme l'humanité dans une lecture purement technologique, purement... J'ai appelé ça technologique, c'est peut-être un abus de langage, hein, mais en tout cas, de la recherche de solutions, uniquement de la recherche de solutions, et l'enfermant là-dedans, Dieu dit « Ok, je vous sors de cette logique parce que vous allez dans le mur. » Je ne vous permets pas de vous enfermer dans cette logique-là. C'est une possibilité que je vous soumets. Maintenant, qu'est-ce qui distingue? Finalement, structurellement, on a grosso modo les mêmes choses qu'avec Tanit Tzibour. On retrouve un chef politique, on retrouve une catastrophe climatique, on retrouve une réaction. Tout va bien, c'est la même chose. Alors je me suis posé la question, c'est qu'est-ce qui les différenciait? Alors en quelques mots, je vais vous citer les passages du Rambam dans Ilchot Ta'anit, dans les lois de Ta'anit. Je vais les traduire, ils sont directement traduits parce que ça serait un peu laborieux de lire en hébreu puis les traduire. Juste trois lois. Il dit la chose suivante. Il est un commandement positif de la Torah d'implorer et de sonner dans des trompettes lors de toute calamité qui surviendrait à la communauté. Ainsi que le dit le verset, sur l'oppresseur qui vous opprime, vous sonnerez de la trompette. C'est-à-dire sur toute chose qui vous opprime, comme la disette, la peste, les sauterelles et toutes choses semblables, implorez à leur propos et sonnez. Donc Rambam nous dit qu'il y a une mitzvah, un devoir, une injonction de réagir. Il se passe quelque chose, vous devez vous mobiliser. Par rapport, vous ne pouvez pas rester, et ce qu'on va voir après, vous ne pouvez pas rester impassible face à tout ça. Vous devez vous sentir concerné et agir face à cette... ou réagir face à cette situation. Deuxième halakha, il dit, et cela fait partie des voies du repentir, que lorsque surviendra une calamité qu'ils imploreront à son propos et qu'ils sonneront, tous sauront que cela est arrivé à cause de leurs actes mauvais, et c'est ce qui entraînera à faire cesser la calamité sur eux. Alors là, Rambam, c'est là qu'il nous met un peu le nez dans le problème. Réagir, c'est un point commun avec Babel. On réagit. Tu dois te mobiliser, tu dois faire quelque chose. Mais Rambam, il dit non. Il dit, en faisant ça, il y a ici une prise de conscience. C'est arrivé à cause de vos actes. Ce n'est pas de la culpabilité, ce n'est pas du tout le problème. C'est de la responsabilisation. C'est-à-dire qu'il y a une idée que je ne suis pas étranger à ce qui se passe, j'ai mon rôle et j'ai ma possibilité de remettre les choses en cause. Comment? Visiblement, par un examen moral. On va y revenir. Et Rambam, c'est une phrase très célèbre qui a fait couler beaucoup d'encre. Il dit, mais s'il n'implore pas et ne sonne pas, mais disent « cet événement est la conséquence à notre égard de la marche normale du monde, et cette calamité ne survient que par hasard », il dit « c'est la voie de la cruauté, Arzariut », dit-il. Ravolbeu a beaucoup commenté ce passage. « Et elle les entraîne à adhérer plus encore à leurs actes négatifs, et la calamité s'ajoutera à d'autres supplémentaires. C'est ce que dit le verset, et si vous vous comportez avec moi avec hostilité, alors je me comporterai aussi avec vous avec hostilité. C'est-à-dire que lorsque j'amènerai sur vous une calamité afin que vous vous repentiez, si vous dites qu'elle est due au hasard, alors j'ajouterai à ce hasard. Ce qu'il est en train de nous dire, Rambam, c'est que lorsqu'on fait face à ce genre de calamité, ce genre de situation, ce genre de catastrophe, il faut être capable de dire « ça n'a pas rien à voir avec moi ». Pas que je sois coupable, parce que d'abord on s'en fiche de la culpabilité, ça ne va jamais faire avancer quoi que ce soit. Mais que tout ça n'est pas dû au hasard, et ça a un lien avec mon comportement moral. Donc, il doit y avoir une dimension de ressaisissement, et ça c'est l'inverse de Babel. C'est-à-dire que Babel veut dire, moi je vais trouver des solutions, mais je ne vais surtout pas changer. Je vais parer au problème, mais je ne vais surtout pas remettre en cause mon attitude. En disant, ce n'est pas l'effet du hasard, évidemment c'est une affirmation de la providence. Donc là aussi on est dans la logique complètement inverse de Babel. Là où Babel veut couper et dire Dieu n'a rien à faire dans le monde, on ne veut pas le faire intervenir et on veut en finir avec la providence, le Tanit Sibour fait le contraire. Il dit je veux que tu sois capable de dire qu'il y a une possibilité d'affirmer la providence. Ce qui m'intéresse ici dans cette histoire, si on reprend les différents avis qu'on a vus, il y a toujours cette logique qu'on va prendre le nasi et d'une manière ou d'une autre, on va le ramener à l'intérieur du peuple. On le sort de son piédestal et on le ramène à l'intérieur du peuple. Moi, j'ai proposé de dire qu'ici, il y a une forme d'abdication du politique. C'est-à-dire que le geste du Tanit Sibour, c'est le politique qui abdique. Là où il pensait, où il affirmait tout pouvoir, apporter des solutions à tout, tout d'un coup, il abdique. On lui dit, la seule possibilité de faire face et la seule attitude juste face à cette situation, c'est que le politique recule et dise, c'en est fini, je ne peux pas tout. Mais ça, vous imaginez à quel point c'est dur. Il me semble que c'est ça le sens que le Yerushalmi propose. C'est lorsqu'on dit, descend avec nous, ça veut dire, accepte que l'action publique, l'action politique est limitée. Ça ne veut pas dire qu'elle elle ne doit rien faire. Ça ne veut pas dire qu'elle est incapable, mais qu'elle est limitée. Mais il faut en savoir les limites. Le but n'est pas de dire on baisse les bras, on ne fait rien. Évidemment que du point de vue même halakhique, il y a un devoir de sauver des vies. C'est une mitzvah, le chaybem. Donc il n'y a pas du tout l'idée qu'on va laisser tomber, on laisse regarder, on laisse le bon Dieu faire. Mais il y a l'idée qu'il y a une prise de conscience profonde des limites de l'action politique. Contrairement à Nimrod, Nimrod il galvanise les foules. Venez, on va trouver, je vais vous montrer ce qu'on va pouvoir trouver comme solution. Le Nasi, si vous regardez même dans le Rambam, même lorsqu'il y a les exhortations qui sont faites au peuple au cours du Tanit Sibour, tous les discours qui sont faits, c'est pas le Nasi qui les fait. C'est le Zaken, l'ancien de l'Assemblée. Comme si on disait au Nasi, stop. Ne manipule pas les foules, descends. Même dans cette logique-là de l'appel à une capacité à se reprendre, on lui dit non, descends, descends. Donc il me semble que ce qui est central ici, c'est que cette dimension d'examen de conscience. Si on regarde les paroles que prononce le Zaken, cet ancien qui parle des paroles d'exhortation, il dit, juste les mots, nos frères, ce ne sont ni le silice ni les jeûnes qui ont un effet, mais le repentir et les bonnes actions. Comme nous l'avons vu à Ninive, à propos de lequel il est écrit, Dieu vit leurs actes. C'est-à-dire leurs actes et pas simplement le jeûne. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité de se reprendre et d'avoir de changer quelque chose. de faire qu'on se mobilise autour d'une capacité à ce ressaisissement moral. Je vais juste noter deux choses ou trois et je m'arrêterai là. La première, c'est que je me suis étonné de voir qu'en fait, enfin étonné, j'ai pu constater, j'en ai parlé avec des gens bien plus compétents que moi, c'est que ce sujet de Bavel et de la rupture entre le haut et le bas est beaucoup développé par les Mekoubalim, par les maîtres de la Kabbalah. Comment je tombais dessus? Parce que le Shiur Veda t'en parle. Il fait référence au maître de la Kabbalah. Je m'arrête là parce que je suis pas capable de dire des choses suffisamment claires là-dessus. Malgré tout, disons-le quand même, ils ont ça à voir avec un rapport au divin qui n'est pas complètement étranger à la faute d'Adam Harishon. C'est-à-dire que ce qui se joue à Babel, c'est peut-être, une réitération d'une certaine manière de la faute du premier homme. Je ferme la parenthèse. Encore une fois, pour illustrer, pas pour encore et encore rappeler l'actualité, mais je me suis fait cette réflexion, c'est qu'en travaillant sur le sujet, c'est que quand vous regardez un peu le rapport du GIEC, il y a plein de recommandations très techniques. On va éteindre la lumière à telle heure, on va arrêter de consommer tel et tel combustible, tout ce que vous voulez. Il y a toutes sortes de choses, et les gouvernements s'empressent de dire « je suis le premier à l'avoir fait, je suis en raccord avec le rapport du... » On pourra dire ça, Jérémy, mais je suis raccord à 100%, tout va bien. Seulement, si vous regardez bien le rapport, il y a plein de recommandations de changer de société, de modifier le rapport, les rapports économiques à l'intérieur des sociétés. Ça, disparu. Tout le monde se gargarise d'appliquer les modalités techniques. Mais tous ceux à qui on dirait... Mais attendez, il y a un paragraphe après qui dit qu'on doit, changer d'une manière morale le rapport, l'équilibre au sein d'une société. Ça a complètement disparu. Ça m'a frappé. Je ne sais pas si c'est la même chose. Je ne cherche pas à les identifier. Mais il me semble que ce mouvement est intéressant. Qu'on se soit intéressé, on se soit polarisé uniquement sur un aspect de solutions techniques, en oubliant complètement un changement profond de société. Un dernier point, c'est pour reboucler avec les travaux de Danitro. On dit reboucler maintenant. Je me suis demandé comment ça marche avec Esther, cette histoire. Alors j'ai cherché pas mal, et j'ai échangé avec des Tamil Ramus sur le sujet. Et peut-être, je pense que ça pourrait être une conclusion. Si on dit que le jeûne qu'on voit dans la Megillah est une forme de Ta'anit Sibur, bien particulier, on est bien d'accord, bien particulier, mais en tout cas, il en a beaucoup d'aspects. Alors, on n'est pas en Eretz Israël, qu'est-ce qui se passe? Comment il a pu provoquer? Bon, il y a des commentaires qui disent que Mordechai était à la tête du Sanhedrin, qu'il a été le Nassi précisément. Alors, d'après certains Rishonim, le Nassi peut même en dehors d'Eretz Israël, parce qu'il tire sa légitimité d'Eretz Israël. Mais je pense que ceux qui emportent le mieux les choses, c'est ceux qui diraient qu'il s'agit là d'une loi d'exception, ce qu'on appelle Horatcha. Donc que finalement, il y a une possibilité de convoquer le Tzibour, peut-être, même en dehors d'Eretz Israël, et ça ne sera jamais qu'une Horatcha. Ce ne sera jamais qu'une loi d'exception. Que fondamentalement, en Eretz Israël, c'est là que ça se joue. C'est là que le Tzibour se concrétise. Mais si ça se fait en dehors d'Israël, ça pourra se faire de manière exceptionnelle. Néanmoins, ça ne sera qu'une Horatcha. Et il me semble que ça s'approche de l'idée que vous avez développée. Ce serait de dire que, finalement, si on regarde à l'aune du Ta'anit, on va en voir un signe du politique du peuple juif. Ben, ce signe du politique ne pourra se manifester que de manière exceptionnelle, que de manière comme une sorte d'adaptation au contexte, mais pas de manière essentielle. Voilà, merci beaucoup.